Lac et Carac présentent Nouvelle Ère avec Genève Aéroport. Embarquement immédiat.
Nous voilà donc de retour ici avec Monsieur Moraga. Tout va bien ?
Très bien, très bien.
On vient de découvrir un peu votre bébé, en quelque sorte. Le tri-bagage, je ne savais pas. On dit effectivement que c'est la colonne vertébrale d'un aéroport.
Oui, alors c'est la colonne vertébrale de l'aéroport parce que finalement, il y a deux flux qui sont importants. Il y a les bagages et les passagers.
Oui.
Mais c'est vrai que les bagages, l'ensemble en fait, du processus, des processus du bagage, que ce soit la manutention, que ce soit le contrôle sûreté, finalement, sont concentrés, et aussi le tri, sont concentrés dans le tri-bagage. En sachant que le tri-bagage est d'une longueur de 600 à 700 mètres, donc c'est vraiment une colonne, et puis finalement, c'est vital. Si on n'a pas le tri-bagage, on serait vite débordé avec les bagages, et on serait peut-être contraint assez rapidement de fermer l'aéroport, parce qu'on n'aurait pas à gérer le flux des bagages, en sachant que même avec des mesures compensatoires avec des personnes, on n'arriverait pas à suivre la cadence.
Alors avant de passer à des chiffres et revenir avec plus de détails concernant ce tri-bagage, vous avez pu découvrir qu'il y a tout un monde de gens qui vivent là-dedans. Et j'aimerais d'abord qu'on parle rapidement du vocabulaire. Dites-nous par exemple, qu'est-ce qu'un voltigeur ?
Alors un voltigeur, en fait, c'est une personne qui va décoincer les bagages. Alors de temps en temps, il y a des bagages qui se coincent, qui peuvent arrêter le système du tri-bagage. Et il faut intervenir relativement rapidement pour décoincer le bagage, le sortir et remettre en route le tri-bagage.
Est-ce que le terme vient du fait qu'ils doivent effectivement escalader au milieu de ces rampes et de ces...
Alors c'est vrai que c'est, on va dire que c'est un peu sport comme métier. Effectivement, quelque part en termes de mode opératoire, ils doivent accéder dans des zones qui sont particulières. Et peut-être, je ne suis pas sûr, mais le nom vient de cette fonction et de cette particularité.
Peut-être de nouvelles projections professionnelles pour certains.
Peut-être.
En tout cas, on y reviendra. Concernant ce tri-bagage, on vient de découvrir effectivement que c'était un projet titanesque. Était-ce vraiment absolument nécessaire de le changer ?
Alors c'était essentiel. Essentiel pourquoi ? Parce qu'il y a d'une part l'aspect normatif. Il faut savoir que les scanners, les scanners sûreté qui scannent les bagages, la Commission européenne a mis une contrainte pour changer le standard. Donc maintenant, c'est des standards 3, c'est de la nouvelle génération. Mm-hmm. Et au niveau de la Commission européenne, on était contraint de changer ces scanners qui sont relativement lourds et c'est vraiment une nouvelle génération. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut aussi savoir que finalement, le tri-bagage, en tout cas une grande partie du tri-bagage, date des années 90. Et c'est vrai qu'il arrive en fin de vie. Normalement, c'est 20-25 ans pour un équipement industriel. Donc on arrive vraiment en fin de vie. Et le troisième élément, c'est la capacité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un trafic de pointe qui est relativement important et on avait de la peine à suivre avec l'ancien tri-bagage. Donc c'était une nécessité en termes de capacité de changer le tri-bagage.
Pour autant, on a pu découvrir que c'est un chantier de par sa taille qui a pris beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Il a commencé les premières pensées, c'était en 2018. Les premiers coups de travail, c'est en 2019.
Alors, en fait, les premières réflexions, c'était en 2013.
Ah oui.
Déjà en 2013.
Bien plus loin.
Bien plus loin. Les premières études en 2014. Et c'est vrai que les premiers travaux, ils ont été engagés en 2018 parce qu'on a construit l'Est. Et il y avait des mesures qu'on devait mettre en place. Par exemple, l'EBS, où on stocke 2000 bagages, qui se situe entre l'Est et le bâtiment existant.
L'EBS, vous pouvez traduire ?
Alors, l'EBS, c'est le Early Baggage Stockage. Donc, c'est vraiment où on stocke provisoirement des bagages pour un problème de capacité de chute.
Enfin, après toutes ces péripéties, vous arrivez en quelque sorte maintenant au bout des travaux.
Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on a 65% des bagages qui sont sur le nouveau tri-bagage, donc le BLC. Et en septembre de l'année prochaine, on sera à 100% sur le nouveau tri-bagage, en sachant que la fin du chantier, à proprement dit, ça va être plutôt fin 2025, début 2026.
Évidemment, ce chantier n'a pas été aussi facile. Et pour cause, il y a eu l'histoire, et notamment eh bien, ce qui s'est passé en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé pour vous ici avec ce chantier ?
Alors, 2020, effectivement, il y a eu Covid, le chantier BLC s'est arrêté pendant un petit moment. Le problème, c'est que l'intégrateur est italien, donc les employés ne pouvaient pas venir en Suisse. Donc finalement, le chantier s'est bloqué. On a aussi eu en fait d'autres problèmes en termes de transporteurs. Il y a beaucoup de chauffeurs ukrainiens. Avec la crise en Ukraine, en fait, il y a eu de moins en moins de chauffeurs et des vrais problèmes d'approvisionnement et de logistique. Ce qui est un peu frustrant parce que finalement, durant 2020-2021, il n'y avait pas beaucoup de passagers. Il y avait moins d'impact opérationnel pour le chantier. Mais néanmoins, on n'a pas pu profiter de cette période pour avancer sur le chantier parce qu'on était plutôt bloqués.
Je sais qu'également, il y a beaucoup de gens sur Genève qui ont travaillé sur ce chantier titanesque, qui ont participé, qui ont mis de leur âme, de leur envie, beaucoup d'histoires qui m'ont été contées. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous souhaiteriez nous raconter?
Alors, bon, c'est toujours, les chantiers, c'est toujours une aventure humaine. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup de corps d'État, et ça reste toujours une aventure humaine avec quelques anecdotes. C'est vrai qu'on parlait des chauffeurs, il faut savoir que le tri-bagage, c'est 1500 semi-remorques hein, pour alimenter en fait toutes les pièces. Et c'est vrai qu'un jour, on était en flux tendu en termes de logistique, et on a eu en fait un chauffeur qui s'est présenté à la sûreté, et la sûreté a découvert qu'il y avait une femme qui se cachait dans le camion. Donc je ne peux pas vous dire si c'est sa femme ou sa maîtresse, mais néanmoins le camion a été bloqué pendant plusieurs heures. Et alors voilà, c'était un peu particulier.
Évidemment. Moi j'en ai eu également d'anecdotes qu'on m'a soufflées. Si vous voulez, je vous la partage.
Volontiers.
Si je ne m'abuse, et dites-moi si je me trompe, la gestion du bâti, c'est l'entreprise Vinci.
Tout à fait.
Et l'entreprise qui, elle, a géré l'installation des machines dont on va parler dans un court instant, elle s'appelle Leonardo.
Exactement.
Oui. Et les architectes m'ont dit qu'ils s'étaient rendus compte que ça faisait Leonardo da Vinci,
oui.
Ce qui est un clin d'œil assez intéressant pour l'histoire et pour l'ingénierie.
Oui. Alors, ça n'a pas été prémédité par Genève Aéroport, parce que c'est des marchés publics, donc on verra tous.
Bien sûr.
Effectivement, on a mandaté Leonardo et Vinci.
En tout cas, c'est fait sous l'œil bienveillant du plus grand inventeur de la planète, de l'histoire, évidemment.